Bordeaux Composite.
Campus Bordeaux. 88.1.
Cappuccino.
Alors, je ne sais pas si Agnès Pannier-Runacher est fan de cappuccino. Hein. En tout cas, c'est la boisson qui a été décidée pour aujourd'hui. Puisque toi, Justine, tu nous parles du scandale de l'affaire Perenco.
Ouais, merci, j'ai besoin de café. Si je vous dis pétrolier français, vous me répondrez probablement Total. Mais aujourd'hui, les mains visibles du marché seront celles du second de corvée nationale, Perenco. Donc ce nom est devenu un peu plus familier ces derniers temps, avec les révélations de Disclose sur les liens entre cette firme et la ministre de la Transition énergétique, donc Agnès Pannier-Runacher. Avantage, on reste dans le même secteur. Enfin, c'est peut-être un peu là le problème. Revenons donc sur ce pétrolier bien proche du pouvoir qui ne manque pourtant pas de part d'ombre. Donc, quel est le rapport entre Perenco et le gouvernement? Eh bien, il tient en un nom, celui d'Agnès Pannier-Runacher. Enfin, en plusieurs, si l'on compte le nom de son papa. Puisque oui, selon l'enquête du média d'investigation Disclose, Jean-Michel Runacher, le papounet de notre ministre de la Transition énergétique, a été directeur du pétrolier Perenco. Et même en ayant quitté son poste, il continue d'être impliqué dans les conseils d'administration ou dans la gestion des affaires de la famille Perraudeau, famille propriétaire de Perenco. Et mieux encore, M. Runacher, père dans sa générosité sans limite, a fondé une société nommée Arjunem, dont il a offert les actions à ses petits-enfants, soit la progéniture d'Agnès Pannier-Runacher, un beau patrimoine familial d'1,2 million d'euros. Mais petit bémol, Arjunem a des liens très étroits avec donc le pétrolier Perenco. Hein, papy a une carrière et il en profite. Et même si cette entreprise Arjunem appartient à sa famille nucléaire, la ministre Pannier-Runacher n'a jamais cru bon de la déclarer auprès de la haute autorité de la transparence de la vie publique, alors que les ministres sont censés faire leur déclaration de patrimoine. Hein. Pas de bol, maintenant c'est cette institution qui lance une enquête sur ses potentiels conflits d'intérêts, parce que oui, aussi étonnant que cela paraisse au bonhomme lambda moyen un peu naïf comme nous, asseoir ses rejetons sur des barils de pétrole quand on est ministre de la transition énergétique, hein, je souligne le énergétique, ça peut faire tâche. L'instruction est en cours et je vous invite à lire la très sérieuse enquête de Disclose qui a fourni un travail d'alerte fondamental. Et ce n'est pas forcément sur notre ministre que j'ai voulu creuser aujourd'hui, ni même sur Arjunem, mais plutôt sur Perenco. Parce que bon, 1,2 million de capital rangé bien au chaud dans un paradis fiscal par papy, ce n'est rien par rapport à Perenco. La firme est en effet possédée par une autre famille, donc les Perraudeau déjà mentionnés, les Perraudeau qui constituent la 15e fortune de France, et ça attise forcément ma curiosité. Mais alors, cette entreprise, qu'est-ce que c'est? Bah, Perenco, c'est le deuxième de la classe. Hein. C'est un grand discret qui réussit dans l'ombre d'un premier rayonnant, Total, qui concentre toute l'attention et éclipse par là de la surveillance des autorités, donc son second Perenco. Et Perenco, on va le voir, a pourtant besoin d'attention. Il faut donc la lui donner. Perenco, c'est d'abord une énième success story à la française. J'ai l'impression d'en faire toutes les semaines. Enfin, devrais-je dire une success story bretonne. En 1975, le breton, donc, Hubert Perraudeau, fils de marin, crée sa firme après avoir travaillé dans le service maritime à Singapour. D'abord armateur, il se spécialise dans le forage, et pas n'importe lequel. Le forage de puits, dit mature, selon ses termes, donc des puits de pétrole, que les grandes majors pétrolière ne trouve plus rentable d'exploiter. Ces puits en fin de vie, Perenco les adore et les rachète à tout va. Sa logique entrepreneuriale, c'est la survalorisation du capital, pour reprendre les termes de Vincent Harpoulet dans son article pour Le Vent se lève. Perenco n'est pas là pour innover ou miser sur la qualité, mais pour tirer sur le fil de tous ses équipements, hein, siphonner jusqu'au bout toutes ses ressources, quitte à ne pas prendre en compte les risques sanitaires ou environnementaux. Chose hein, surfaite, me direz-vous. Sur son site, rubrique Notre Histoire, la firme liste ses acquisitions mondiales sous une photo du fondateur, hein, fièrement à la barre de son navire. Gabon, Cameroun, République démocratique du Congo, Colombie, Pérou, Venezuela, Turquie, Guatemala et tutti quanti, le groupe souligne, je cite, « l'histoire d'un homme passionné, conquérant et pionnier ». Cette phrase, un écho un peu gênant, hein, surtout parce qu'elle résonne avec les relents de néocolonialisme du pétrolier. Hubert décède en 2006 d'un malheureux accident et c'est son fils, François, tout droit sorti de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, c'est idéal, qui reprend la barre et qui est aujourd'hui à la tête d'une fortune de 8,3 milliards d'euros selon les chiffres de Challenge. Une belle histoire de famille. Qu'est-ce qui pose problème avec Perrenco? Bon, je l'ai déjà mentionné, les relents de néocolonialisme et les manquements des équipements entraînant écocide sur écocide, les fautes sont déjà là en une rapide description. La firme n'est pas cotée en bourse, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est empêchée de brasser des gros sous. Les interrogations portent alors sur les paradis fiscaux et le flou total de la gestion financière de la multitude de filiales et de holdings de Perrenco. La firme doit avoir d'astucieux avocats fiscalistes parce que son organisation est tout simplement indéchiffrable, et pas seulement pour la citoyenne lambda que je suis. Entre au moins une soixantaine de holdings logés aux Bahamas qui gèrent elles-mêmes des filiales à l'étranger mais pas toutes clairement reliées à Perrenco, un siège à Londres et un autre parisien qui lui accorde des privilèges des traités bilatéraux de libre-échange signés par la France, des traités qui lui ont d'ailleurs permis d'attaquer l'Équateur pour une hausse d'impôts sur les bénéfices exceptionnels qui l'empêchaient de réaliser les bénéfices prévus, un procès gagné contre l'État équatorien les mains dans les poches et 400 millions d'euros avec des poches bien remplies et des mains bien tachées. Parce que si les pratiques financières et de potentielles évasions fiscales ne sont pas des plus claires, les pratiques d'exploitation et d'extraction sont unanimement dénoncées. Une liste exhaustive des atteintes environnementales et sanitaires ne tiendrait pas dans les limites temporelles de cette chronique, peut-être même pas de cette émission. Disclose rapporte dans une autre enquête des fracturations hydrauliques illégales en Turquie, des fuites de 50 000 m2 de pétrole et une condamnation pour pollution au Gabon, des contaminations des eaux, de l'air, des sols, le détournement de ressources hydriques, les déplacements de population et les sévères effets sur la santé des habitants en Amérique du Sud, en Colombie, au Venezuela, au Guatemala. La liste précédemment citée d'acquisition de puits et de filiales à l'étranger, se révèle correspondre à la liste de ces atteintes environnementales, sanitaires et humaines. Mais un des cas les plus frappants reste peut-être les atteintes de Perrenco au cœur de la République démocratique du Congo. Notons en premier lieu que la firme est le seul exploitant pétrolier du pays actuel et ne manque pas d'en profiter. N'hésitant pas à faire pression sur ses détracteurs, Perrenco exploite des puits, à l'aide de méthodes archaïques et surtout interdites du fait de leur dégradation profonde de la santé des résidents et de leur environnement. Parmi ces pratiques illégales, le torchage de gaz. Dans la région du Mwanda, sur la côte de la RDC, la filiale de Perrenco s'amuse à brûler du gaz issu de son extraction dans des torchères, parfois à même le sol. Cette technique a pour but de transformer ce gaz en CO2, mais libère aussi entre 2 à 3% de méthane, un des gaz les plus impactants en termes de réchauffement climatique d'ailleurs. De ces torchères s'échappent d'immenses fumées noires, s'égarant dans le ciel. Une perte volontaire de gaz dans l'atmosphère par Perrenco qui aurait rejeté 2 milliards de mètres cubes de méthane dans l'atmosphère selon les chiffres de Disclose. Le média nous raconte aussi les maladies respiratoires, un jeune enfant qui crache du sang, un jeune homme mort d'une telle infection à seulement 21 ans. Pendant ce temps-là, Perrenco crie à la diffamation. Mais là, on va se poser la question de la régulation de ces activités. Lors de ma chronique sur le projet ICOP, je mentionnais la loi sur le devoir de vigilance, votée en 2017, en vertu de laquelle des ONG pouvaient attaquer Total en justice. Mais Perrenco a trouvé l'astuce, celle de ne pas être trop gros. Cette loi de vigilance ne s'applique pas aux entreprises de moins de 10 000 salariés, en incluant les filiales directes ou indirectes étrangères, ce qui est le cas, bah, quelle chance, de Perrenco. La firme a tout compris, pas besoin d'être un géant pour en avoir l'impact. Cette loi ne lui est pas applicable dans son état d'origine et les traités bilatéraux de libre-échange comme les pots de vin dans les pays d'exploitation la protègent d'attaques majeures en justice. Le Sénat congolais publie depuis 2013 des rapports sur ces atteintes, une alarme bien feutrée face à l'inaction criante des autorités. Quelques ONG comme Sherpa ou les Amis de la Terre poursuivent pourtant Perrenco pour préjudice écologique, mais la société ne semble pas trop inquiète. L'entreprise se cache derrière des contributions compensatrices qualifiées de cosmétiques par 3 chercheurs et chercheuses de la Revue française de gestion. Quelques bourses d'élèves congolais, une école au Guatemala, une poignée d'arbres replantés, une bibliothèque par-ci, un centre culturel par-là, et Perrenco estime ses atteintes massives effacées. C'est raté. Perrenco a eu de même l'astuce de financer 80% du média Combini, chantre de l'infotainment, mais aussi des vignobles dans notre belle région bordelaise. Une diversification clé pour l'entreprise familiale. Il s'agirait donc de lister des pages et des pages d'atteintes, de dommages, d'évasion fiscale, de conflits d'intérêts, de détournements, de crimes humains et environnementaux potentiels. Le cas de Perrenco n'est pas unique, mais traduit de façon saillante des dérives systémiques de firmes transnationales toute puissante, tirant à leur avantage toutes les failles du droit encadrant un libéralisme mortifère. L'enjeu majeur autour de Perenco reste l'écho public et la clarification de ses activités comme de ses violations. Creuser, comprendre et ébruiter ses affaires s'avère être la seule arme à lui opposer, car son outil favori demeure la discrétion.
Campus Bordeaux
88.1.
Un grand merci, Justine, d'avoir décrypté cette affaire Perenco pour nous. Bon, Justine, comment ils font au gouvernement pour nommer des personnes qui n'ont que des conflits d'intérêts ?
Ça me fume à chaque fois, c'est impressionnant. C'est peut-être une épreuve d'entrée, je ne sais pas. Entre colère, panier runaché, même les affaires... Du garde des Sceaux, je suis impressionnée, franchement, limite.
Mais c'est assez impressionnant, d'autant plus qu'aujourd'hui, on vit dans l'ère de l'information instantanée, on vit dans l'ère d'Internet. Donc si vous avez des secrets tels que ces secrets-là, vous ne pouvez pas les cacher. C'est quand même assez hallucinant. Donc on peut se demander, on peut se poser la question si c'est pas juste s'ils s'en fichent, en fait, de nommer des personnes qui ont des conflits d'intérêts avec des preuves. Ou bien ils sont complètement à la ramasse, c'est peut-être une théorie possible aussi. Il y a des gens qui disent que les gens en ce moment au gouvernement sont terriblement médiocres. Il y a des gens qui misent plutôt sur la médiocrité, d'autres qui disent non, mais c'est plus pernicieux, il y a complot, etc. Mm. C'est quoi ton avis sur la question ? Et toi aussi, Jim, je me permets de te solliciter.
La médiocrité, ça a été un sujet traité par Socialter dans un de ces dossiers, ça date de quelques mois. Ils avaient invité des chercheurs qui parlaient d'idiocratie même. Quant au conflit d'intérêts, on peut pas faire les innocents et dire oh non, on n'était pas au courant qu'Agnès Pannier-Runacher était la fille du directeur général qui a été le plus longtemps à la tête de Perenco quand même. Ils le savent très bien. Après, ils font forcément le lien, est-ce qu'ils se disent...
Ou est-ce qu'il y a une impunité ?
Oui, est-ce que c'est une impunité ? Est-ce que c'est aussi une question d'entre-soi ? C'est pas forcément quelque chose qui choque, et c'est
peut-être
pas forcément la seule
pour eux,
qui
ils
a
voient
des
pas
liens,
le problème, en fait. C'est tellement ancré dans leur manière de mode de vie, d'avoir des gens qui arrivent à ce genre de fonctions, qui ont le parcours un peu scolaire élitiste, et du coup qui ont des grands-parents... PDG de grandes entreprises pétrolières.
Et puis même, certains estimeraient que les activités de Perenco sont tout à fait légitimes et que c'est une exploitation des ressources à disponibilité pour une entreprise. Techniquement, Perenco rentre vraiment dans un cadre d'un capitalisme, d'un libéralisme exacerbé, même si on voit bien que l'évasion fiscale est à ça de sortir de cette entreprise, et même celle des enfants d'Agnès Pannier-Runacher, Arjunem, qui est aussi logé aux Bahamas, au passage.
Et toi alors, Jim, est-ce que ça te choque de voir autant de personnes au gouvernement avec tant de conflits d'intérêts, ou bien ça t'étonne pas plus que ça, ou tu t'en fiches ?
Ça me blase, en
ça
fait.
Ça te blase,
j'en
oui,
ai
c'est
marre,
le cas de beaucoup de personnes.
Oui, alors moi je suis pas du tout renseigné sur la question et je le savais pas, mais en tout cas Agnès Pannier-Runacher, je la trouve très méprisante et orgueilleuse, et ça m'étonne pas du tout qu'elle vienne d'un milieu pareil. Donc voilà, ça m'étonne pas et ça me blase en fait. Je trouve que c'est assez désespérant et je me demande comment il faudrait faire pour même écarter ces gens du pouvoir, parce que je pense que s'il y a des problèmes dans la société, c'est parce que ce genre de personne est au pouvoir. Mais bon, après, ça reste une opinion politique comme une autre. Mais voilà, s'il y avait des gens qui étaient plus... dont le quotidien était plus proche du nôtre, et ben peut-être que les choses changeraient. Voilà.
Mais comment ça, Jim ? Tu n'as pas d'empathie pour le dur métier de ministre ?
Le dur métier de ministre, c'est vrai. Je nie pas que c'est une fonction qui est compliquée. Mais après, je pense que quand on a tous les avantages qu'ils ont à côté, en fait, ça peut se faire, même si c'est compliqué.
Je te charriais, bien évidemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un documentaire qui est sorti sur Agnès Pannier-Runacher. Je ne sais pas si tu as la connaissance de ce documentaire, et qui s'appelle Le Ministère, où en fait, pendant un an et demi, une certaine Hélène Desplanques a pu rentrer dans Bercy et suivre le quotidien d'Agnès Pannier-Runacher. Donc, c'est un documentaire qui fait une heure environ. Il était sorti sur la chaîne parlementaire Public Sénat. Et on suit un peu le quotidien de cette ministre. Alors, on voit beaucoup de choses, parce que vraiment, elle a quand même suivi pendant un an et demi. Mais on peut se dire qu'une heure de documentaire pour un an et demi, c'est relativement court, qu'il y a eu beaucoup de coupes au montage. Et surtout, on voit aussi dans le documentaire les scènes où la journaliste n'a pas le droit de rentrer dans certaines réunions, dans certaines structures. Enfin, elle peut la suivre, mais pas complètement, pas jusqu'au bout. Et ce qui ressort vraiment de ce documentaire, c'est l'impuissance, en fait, d'Agnès Pannier-Runacher, où à l'époque, il y avait un énième conflit social avec une entreprise qui mettait la clé sous la porte, et ça suit un peu ces employés hein, qui sont limogés de leurs entreprises et qui, en dernier recours, s'adressent au ministère. Donc à une ministre telle que Agnès Pannier-Runacher, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un dogme omniprésent à Bercy, c'est laisser faire le marché. Et donc à partir de ce moment-là, elle peut que ramasser les miettes et proposer des solutions vraiment pas idéales à ses employés, telles que des indemnités ou leur promettre des formations ou de les replacer activement dans le marché du travail alors qu'ils ont plus de 50 ans. Donc voilà, si vous êtes curieux, hein, on peut le trouver facilement en ligne, notamment sur Public Sénat. Donc, documentaire qui s'appelle Le Ministère, où vous pouvez suivre Agnès Pannier-Runacher pendant une heure.
Et je crois qu'elle était ministre de l'Industrie, si
tout
je ne me trompe
fait,
pas, à cette
exactement.
Époque-là. Et elle a changé, elle a été trois fois ministre, du coup, il me semble.
Oui.
Et maintenant, elle est à la transition énergétique, donc aux côtés du ministre de la transition écologique. Hein, c'est pas la même chose, qui s'occupe aussi de la cohésion des territoires. Donc, on a une belle équipe qui a une action tout à fait relative, on va dire.
On va te retrouver, Justine, la semaine prochaine où tu nous parleras sans doute d'un nouveau scandale ou d'économie, de politique.
J'adore la corruption, c'est vraiment toutes les semaines.
C'est ton dada.